proprement de la philosophie de l'être, hein, quand on essaie de saisir. Alors, on me demande maintenant de revenir un peu, c'est tout à fait normal, de revenir à ce que représente le jugement d'existence. Vous comprenez que si je suis heideggerien, je dis penser l'être dialectiquement. J'ai dit la dialectique est née avec Hegel. La dialectique est née à partir des idéologies. Je ne peux pas l'expliquer maintenant, mais je l'expliquerai progressivement, parce que c'est important de comprendre ça. Je vois que la dialectique est une impasse, parce qu'elle me laisse dans le développement de mon intelligence sans revenir au réel. Je crois qu'aujourd'hui, le renouveau philosophique consiste à redécouvrir le jugement d'existence. Ce renouveau philosophique ne peut se faire que par là. C'est pour ça que j'y donne une telle importance. Hein. Ce jugement d'existence, c'est capital parce que c'est cela qui me permet de comprendre le lien de l'intelligence avec la réalité existante. La réalité existante, c'est aussi bien moi que toi que l'autre. C'est toujours l'autre, la réalité existante. C'est l'intelligence qui rejoint cette réalité existante. C'est l'intelligence qui touche cette réalité existante, donc qui touche l'autre. Toutes les idéologies qui commencent par les idées, aussi bien le thomisme que Descartes, s'enfermer dans la philosophie du même. Quand vous commencez par l'idéologie, c'est vous. Et vous avez une peine énorme de redécouvrir l'autre. Tout le problème de Descartes, c'est de savoir comment, par le cogito, en pensant sur mes idées, je peux rejoindre l'autre. C'est ça tout problème de Descartes. Et ce problème de Descartes, on le retrouve dans la phénoménologie moderne de Husserl. Comment, à partir de la réflexion sur mes idées, je peux rejoindre l'autre? Je crois que quand on commence par l'idée, on ne peut jamais rejoindre l'autre. Il faut commencer par la connaissance de l'autre pour comprendre le soi-même. On se connaît par les autres. Et grâce aux autres, on arrive à se connaître. Mais si vous commencez par vous regarder vous-même, vous ne rejoindrez jamais les autres. Parce que vous projeterez sur les autres ce que vous êtes. Alors si vous êtes l'être le plus parfait qui soit, tous les autres seront des petits nains. Et vous les jugerez en fonction de vous. C'est vrai dans la vie commune comme ça. C'est constamment comme ça. Quand on se regarde en premier lieu, on ne rejoint jamais les autres. Parce qu'on ne rejoint les autres en fonction de soi. Donc, j'aime les autres dans la mesure où les autres sont mon propre miroir. Oui. Donc, on ne rejoint jamais l'autre comme tel. On ne rejoint jamais l'autre dans son irréductibilité par rapport à moi. Dans ce qu'il a quelque chose d'absolu. Tant que je ne rejoins pas l'autre en premier lieu, je le rejoins toujours à partir de moi et en fonction de moi. C'est intéressant, vous voyez, parce que Heidegger, à ce point de vue-là, est très intéressant parce qu'il nous montre qu'en effet, il y a deux philosophies, la philosophie du même et la philosophie de l'autre, ce que Platon avait déjà dit, et qu'on rejoint, on tombe sur ses pattes, la philosophie du même et la philosophie de l'autre. Si vous êtes pour la philosophie du même, vous vous regardez. Regardez-vous, c'est vous. Vous êtes le seul être au monde intéressant, c'est vous. Oui, cette espèce d'égocentrisme extraordinaire d'une philosophie idéaliste. La philosophie idéaliste, c'est toujours la philosophie du même. C'est ce que disent les idéalistes comme Brunswick d'une façon très belle, en disant c'est l'ipsodipsisme. Je me regarde moi-même, je me découvre moi-même, et je ne peux me découvrir que moi-même. Les autres, existent-ils ou n'existent pas, je n'en sais rien. C'est hallucinant, hein, de vivre toujours à côté de quelqu'un en disant « Mais est-ce qu'il existe ?» Je sais que moi j'existe, mais lui. Moi je sais que je suis un homme, mais à côté, qu'est-ce que c'est? Un canard? Un ours à certains moments? Un éléphant à d'autres moments? Qu'est-ce qu'il est? Je ne sais pas ce qu'il est. La philosophie du même, vous voyez, ça va très loin, parce qu'on a 4 siècles, hein, sur le dos de cette philosophie du même. Et donc on est tous marqués Prétendre qu'on n'est pas marqué, c'est faux. Ça prouve qu'on est dedans. Il faut qu'on est dans la gueule du loup. Hein? On est tous marqués par cette philosophie humaine, parce que cette philosophie humaine est née, vous voyez, c'est ça la chose perfide, elle est née de la laïcisation d'une philosophie, d'une théologie. Elle est née de la laïcisation d'une théologie. Et donc il y a quelque chose d'erroné dans cette position-là. Hein? Toute libération qui veut se faire en dehors du Christ est une libération fausse. Toutes les libérations, jusqu'à la théologie de la libération d'aujourd'hui, oui. C'est très curieux, parce que c'est vieux quand on dit que c'est nouveau la théologie. Mais non, c'est la contamination de la philosophie sur la théologie. La philosophie qui est née à partir de Descartes est une philosophie de la libération. On veut se libérer de la théologie, mais on n'a pas à se libérer de la théologie. Il suffit d'être intelligent pour comprendre que la foi, elle ne nous met pas dans un état d'aliénation. Il suffit de comprendre que la foi, au contraire, nous libère et permet à l'intelligence d'être elle-même. Donc il suffit de comprendre que la théologie ne peut pas. Qu'il y ait des théologiens qui aient été des tyrans, ça c'est bien évident. Parce que le tyran existe partout, qu'il soit théologien ou pas théologien. N'est-ce pas ? Donc le tyran, c'est tout simplement le désir de l'homme de dominer. Mais ça ne provient pas de la foi. Ça provient tout simplement des conséquences du péché originel. On a envie de dominer. Ce n'est pas la foi. La philosophie donc, qui est née à partir de la libération est une philosophie fausse dont on voit les conséquences aujourd'hui. Donc il faut tout reprendre à partir de ce contact que j'ai avec l'autre. Le premier contact que j'ai avec l'autre, c'est par le jugement d'existence. C'est ça qu'il faut saisir. C'est par là que je me libère du moi. Ah, il faut se libérer du moi, oui, ça oui. Libération du moi par le jugement d'existence. C'est le jugement d'existence qui me libère de moi, de m'enfermer dans cette prison dorée qui sont mes idées. Mes idées, c'est très très bien, mais quand je commence à me gargariser de mes idées, ce gargarisme risque de demeurer indéfiniment, n'est-ce pas ? Je me gargarise de mes idées. C'est la cérébralisation, ça. Et pour la plupart des gens, la philosophie, c'est ça, c'est se gargariser d'idées. Eh bien, quand on gargarise d'idées, eh bien non, on n'est pas dans le réel. On est dans les idées. Alors il s'agit de revenir au contact avec l'autre. Et le premier contact avec l'autre, c'est le jugement d'existence. Et c'est ce que Heidegger n'a pas saisi. Si Heidegger avait pu saisir ça, je crois qu'il aurait pu y tracer un chemin merveilleux. Il n'a pas saisi ce que c'était que ce jugement d'existence. Parce qu'il avait un a priori kantien qui faisait que le jugement d'existence ne pouvait plus exister. Alors il avait cet a priori kantien qui est resté jusqu'à la fin de ses jours. Il n'a pas critiqué suffisamment Kant et Hegel. Alors il est resté lié à Hegel et à Kant. Je comprends du reste, pour les Allemands c'est très difficile de sortir du carcan hegelien et kantien. C'est très difficile. Vous voyez, les Français ont l'avantage que Kant et Hegel sont écrits en allemand, alors ils sont difficiles pour eux. Alors ils les fréquentent moins. Tandis que lorsque c'est écrit dans sa propre langue, on se met dedans et on reste dedans. Un Allemand a une peine énorme de sortir de Kant et de Hegel. Un Français a beaucoup de peine de sortir de Descartes. Quand c'est un peu plus facile aujourd'hui. Parce qu'on commence à voir que Sartre a lancé des coups tellement violents sur Sartre, sur Descartes, que les jeunes sont beaucoup moins cartésiens qu'ils le sont. Ils commencent à sortir de Descartes. Beaucoup plus que les Allemands de Kant et de Hegel. Heidegger a voulu sortir mais n'en est pas sorti. Donc la grande manière de sortir de Kant et de Hegel, c'est de redécouvrir la réalité existante, l'autre en premier lieu. Alors qu'est-ce que c'est que ce jugement d'existence? Ce jugement d'existence, c'est cette alliance fondamentale et première de l'intelligence avec les sensations externes. Les sensations externes, c'est pas la peine de réfléchir longtemps là-dessus, je sais très bien que j'ai 5 sens et que je touche la réalité existante, cette réalité sensible, je la touche de 5 manières différentes. Je la touche, je la vois, je la mange, quelquefois je l'écoute. C'est vrai, on a l'écoute devant un animal qui est là muet. Hein. Ça se demande un petit peu qu'est-ce qu'il a pas pour entendre son premier cri. Bon, on écoute. On écoute le vent, on écoute la nature. Bon, on a 5 manières de coller à notre univers.
à ces réalités existantes et à nous-mêmes, à notre propre corps. Cinq manières de découvrir notre corps. Sensations externes. Ces sensations externes sont transformées par l'imagination, d'abord, et par l'intelligence.
Que je vous disais tout à l'heure, l'intelligence pénètre toutes nos sensations. L'intelligence, comme telle, alors je le dis ici, évidemment, vous allez me dire, c'est a priori. C'est sûr, ça présuppose toute une réflexion et une critique. Ça présuppose qu'on ait déjà beaucoup réfléchi pour pouvoir découvrir ce jugement d'existence. On ne le dit pas au berceau. On met du temps avant de le découvrir. Ça, c'est normal. La philosophie met du temps. Bon, je découvre que l'intelligence, comme telle, n'est pas liée à un organe physique. Si elle n'est pas liée à un organe physique, l'intelligence n'est pas extérieure aux sensations. Elle n'est pas extérieure à l'image. L'intelligence est capable de pénétrer les images, de les rendre intelligibles. Et elle est capable de pénétrer les sensations externes et de les dépasser. Et donc l'intelligence est capable de se servir des sensations externes pour atteindre le réel. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans le jugement d'existence. Oui, c'est l'intelligence qui, de fait, j'allais presque dire, mais comprenez-le bien, c'est l'intelligence qui se sert des sensations. C'est l'intelligence qui domine les sensations. Elle n'est pas dominée par les sensations, mais elle se sert des sensations. L'intelligence, comme capacité de connaître, va plus loin que les sensations. L'intelligence, comme capacité de connaître, va plus loin que l'imagination. Alors elle peut se servir de l'imagination, elle peut se servir des sensations pour rejoindre ce que les sensations nous disent du réel, ce que l'imagination nous dit du réel, pour découvrir ce que elle dit du réel. Alors c'est là où il faut essayer de comprendre ce que les sensations nous disent du réel, ce que l'imagination nous dit du réel, et ce que l'intelligence nous dit du réel. Parce que toutes sont commandées par cela. Les sensations, qu'est-ce qu'elles nous disent du réel? Les sensations nous donnent ce contact sensible. Je touche la table. Ouais, je touche la table. Si je fais un imbécile, mais uniquement sensation, je touche la table. J'entends. Je sens. Je suis en contact. Un contact avec les qualités sensibles. Pas plus que ça. L'imagination, elle représente le monde. C'est le domaine de la figura. L'imagination, c'est le domaine de la figura, de la figure. L'imagination, c'est toujours dans l'ordre de la figure. C'est dans le domaine, ce qu'on appellera les sensibles communs, c'est-à-dire le nombre, la quantité, le mouvement, le repos. C'est ça, c'est le domaine de l'imagination. C'est un domaine très extraordinaire, l'imagination. Bon, c'est vrai, c'est un contact avec le réel. Le réel implique la grandeur, implique la petitesse, implique la quantité, implique la figure. Et l'intelligence se sert de cela parce que imagination et sensation demeurent dans le sensible. Ça demeure dans le sensible. Donc ça demeure dans le phénomène. Phénomène, ce qui apparaît. Qu'est-ce qui apparaît? C'est le nombre, c'est la quantité, c'est la figure. Ce que je peux représenter. C'est le domaine de la représentation. L'intelligence veut aller plus loin. Elle veut saisir ce qu'est la réalité. Elle veut comprendre que la réalité a une signification. C'est vrai, la réalité a une signification. Vous pouvez vous représenter un chat. Hein? Vous pouvez vous représenter un chat, vous avez deux petites oreilles, puis vous voyez, ah, tout de suite un chat, vous n'êtes pas bien. Les caricaturistes font ça admirablement, ils représentent admirablement. C'est une caricature admirable. Le jour où justement la Pologne a été sous la domination, a été prise comme ça d'une manière si rapide. Alors le Figaro a une caricature admirable, voir le général polonais dans la gueule de l'autre, disant c'est une affaire purement polonaise. Il était dans la gueule, mais il tournait le dos à la gueule, donc vous ne le voyez pas, il était dans la gueule. Et en fond, une caricature fait immédiatement exprimer un tas de choses. C'est beaucoup plus qu'exprimer. C'est un symbolisme qui signifie. Dès que vous êtes en face d'une caricature, vous avez la représentation et la signification. Parce que vous êtes dans le domaine du symbole. Toute caricature est symbolique. Parce que vous voyez, nous sommes matériellement dans les studios. Quelle est cette grande bête qui peut prendre dans sa gueule un général, n'est-ce pas, et faire que ce général vit dans cette gueule en disant « Je suis libre », tout en étant dans la gueule. C'est une affaire purement entre nous, Polonais. Ça ne regarde que nous. Il est dans la gueule. Alors c'est le symbole. Le symbole exprime représentation et signification. Parce que c'est un lien de l'intelligence et de l'imaginaire. C'est ça le propre de l'expression. C'est ça le propre du dessin. La caricature, du domaine du symbole. Alors, il faut comprendre que l'intelligence est capable de se servir de l'imagination pour faire des symboles. L'intelligence est capable de se servir de la sensation pour rejoindre le réel. Directement, par les sensibles propres, elle rejoint directement le réel. Les sensibles propres, les qualités immédiates qui me sont données. Et elle rejoint le réel. Mais elle rejoint le réel au-delà du symbole, au-delà de la signification. Elle rejoint le réel dans ce qu'il est. Et c'est le propre du jugement d'existence qui rejoint le réel en se servant des sensations, en se servant de l'image, pour saisir dans le réel ce qu'il est comme être, ce qu'il est dans ce qu'il a de plus profond. Il existe, il est. Oui, je rejoins la parole de la déesse. Il est. Tout en étant matériel, tout en étant sensible, il est. Notre monde physique existe. Tout en étant un monde quantitatif, tout en étant un monde corruptible, il est. Il peut changer, mais il existe. Et ça, c'est l'intelligence qui fait ça. C'est ni l'imagination, ni la sensation. Vous voyez, il faut comprendre que dans le jugement d'existence, je dépasse la connaissance symbolique, je dépasse les sensations, je dépasse la signification toute simple et première que je saisis de la réalité, en disant « c'est un chat », en disant « c'est une gueule », en disant « c'est un général ». Je dépasse la connaissance significative pour découvrir ce qu'il y a de tout à fait fondamental, le point de vue de l'être. Ceci est. Et c'est pour ça que dans le jugement d'existence, quand je dis ceci est, je suis au-delà de tout ce que représente la sensation, tout ce que représente l'imagination, donc les figures et la connaissance symbolique. Je suis au-delà de la signification et j'essaie de comprendre ce qu'il y a de plus fondamental. Parce que quand je dis chat, ce chat peut être uniquement pensé, ou il peut exister. Donc quand je reste dans le domaine de la signification ne rejoint pas encore l'autre. Parce que quand je dis chat, et si le chat n'existe pas, je le porte dans mon intelligence. Et il n'existe que dans mon intelligence. Tandis que quand il existe réellement, je dépasse mon intelligence et mon imagination pour rejoindre l'autre. C'est par la connaissance de ce qui est que je touche l'autre.
Le 21 décembre 1981. Quatrième conférence.
Hier, j'ai essayé de vous expliquer donc comment comprendre philosophie première, métaphysique, ontologie. Et comment comprendre cette dernière affirmation ontologie fondamentale devant laquelle nous nous trouvons face à Heidegger. Comment la philosophie de Heidegger nous invite à un renouveau, une reprise totale de tout. Évidemment, indépendamment de Heidegger, ceux qui réfléchissent un peu comprennent bien, tant au point de vue chrétien qu'au point de vue purement philosophique, au point de vue chrétien, Vatican II nous fait comprendre qu'il faut tout renouveler, tout reprendre. et le pape ne cesse de nous le dire. Donc au point de vue chrétien, nous sentons très bien qu'il y a un grand tournant dans l'Église, qu'il y a une exigence de renouveau. Cette exigence de renouveau fait comprendre, vous voyez, la signification profonde de Bethléem et de la croix. Parce que je crois que c'est ça. On ne peut pas séparer Bethléem de la croix. Et c'est le renouveau des deux côtés. Et des deux côtés, nous devons saisir ce que doit être le renouveau chrétien. Mais souvent, pour comprendre ce renouveau chrétien, il faut, puisque la grâce ne détruit pas la nature, il faut en même temps ce renouveau de l'intelligence. Autrement, ce renouveau risquerait de ne pas saisir l'homme dans toute sa profondeur d'homme, c'est-à-dire l'intelligence, par où il y a en nous cette source d'autonomie. Et ce renouveau alors philosophique, là on peut le préciser, c'est beaucoup plus difficile de préciser le renouveau de l'Église, puisque là c'est le Saint-Esprit. On peut simplement essayer de comprendre comment, dans la dernière semaine, telle que Saint Jean nous la montre, nous voyons les initiatives du Christ. Et alors là, je crois que ça nous donne une très grande lumière sur ce renouveau de l'Église. Le renouveau philosophique, ça, nous devons le comprendre, si nous sommes intelligents. Nous voyons très bien que ce qui a été oublié, à partir de l'ontologie, c'est-à-dire à partir de cette philosophie qui a voulu naître à partir de la théologie, c'est le jugement d'existence. Et nous verrons tout ce qui a été oublié. Jugement d'existence, interrogation, induction, saisie des principes propres. Voilà ce qui a été oublié. Et l'ordre dans lequel il y a un cheminement philosophique. Je crois que ça, c'est les grands oublis. Parce qu'une philosophie qui naît à partir d'une théologie est une philosophie qui n'a plus son jugement propre d'existence, puisque le jugement propre d'existence était donné par la foi. Elle n'a plus l'interrogation, elle n'a plus l'induction, elle n'a donc plus la saisie des principes propres et son ordre. Et donc il faut redécouvrir cela, ce qui est énorme, hein, ce qui n'est pas commode du tout, il faut bien se le dire. C'est énorme parce que de fait, il y a eu une coupure dans cette transmission d'une philosophie première. C'est ce qui explique comment la philosophie première n'est plus enseignée. Il y a eu une coupure, une grande coupure qui s'est faite. Vous voyez, quand on regarde il y a 50 ans, tous les séminaires enseignaient à peu près la même chose. Ils enseignaient la scolastique décadente. Et les dents des petits-enfants en sont agacées. Hein? On voit très bien ce qu'a eu comme résultat. Des quantités de prêtres et de religieux qui sont partis, c'est parce qu'au fond, la grâce ne s'était pas enracinée suffisamment dans leur intelligence et dans leur cœur profond. Alors, soi-disant par fidélité à la vie, comme ils disaient, ils abandonnaient tout le jour où ils comprenaient ce que c'était que l'amour humain. C'est dommage qu'ils ne l'avaient pas compris avant. Pour comprendre qu'il y a un dépassement de l'amour humain dans l'amour divin. Ils ne l'avaient pas compris parce qu'au fond, la scolastique ne parlait jamais de l'amour. On avait une scolastique qui regardait les définitions et qui regardait le devoir. On avait une morale plus ou moins kantienne. Il fallait faire ça, il faut faire ça. Ou stoïcienne. Et on n'avait plus un vrai regard sur l'homme. Alors ça explique pourquoi le Saint-Père insiste tellement sur l'homme. Vous voyez, en insistant sur l'homme, il nous fait comprendre qu'il faut reprendre une philosophie, mais qui s'appuie sur le jugement d'existence. Alors, j'ai essayé de vous montrer hier, en terminant, comment ce jugement d'existence, c'était cette alliance profonde de l'intelligence avec l'imagination, avec les sensations, mais au-delà de l'imagination, au-delà de la sensation, l'intelligence saisit son bien dans la réalité. Et le bien de l'intelligence, le bien de l'esprit, n'est pas le point de vue sensible, n'est pas le point de vue imaginatif,
Quand l'intelligence ne peut plus se nourrir que du sensible et de l'imagination, l'intelligence ne peut plus acquérir sa véritable taille. Elle reste infantile. Elle reste une intelligence infantile, une intelligence qui décrit. Mais ce n'est plus une intelligence qui pénètre. Intus legere, comme dit saint Thomas. Hein. Lire en profondeur, c'est ça le propre de l'intelligence. C'est-à-dire découvrir dans la réalité les principes propres de cette réalité. Et découvrir dans la réalité son être. L'être n'est plus donné par la déesse, par mode de révélation, il est donné à travers, d'une manière beaucoup plus humble, à travers les images, à travers nos sensations. Et notre intelligence, quand elle touche la réalité, quand elle est présente à nos sensations, elle dépasse nos sensations, mais elle s'en sert. Nos sensations sont comme un intermédiaire qui nous relie au réel dans ce qu'il existe. Dans ce qu'il existe, dans ce monde physique. Alors l'intelligence saisit ce réel en tant qu'il est en acte, en tant qu'il existe, en tant qu'il est. Donc il est autre que moi, puisque dans son existence, il est autre que moi. Peut-être que dans ses qualités, il a des choses semblables, mais dans sa figura aussi, mais dans son existence, il est autre que moi, et c'est ce que l'intelligence saisit dans ce jugement d'existence, dans ce jugement d'existence que nous exprimons en disant « ceci est ». Alors il y a une petite objection là-dessus, je la lis tout de suite, parce que ça, c'est bon de la voir. Nous sommes dans un langage occidental où le verbe « être » existe. N'y a-t-il pas de langue où il n'existe pas, où la juxtaposition de deux signes permet d'établir leur identité sans verbe « être » ? Je n'ai pas à la mémoire d'exemples précis de ces langues. Je penserai aux langues orientales, japonais, chinois. S'il y a le jugement d'existence, est-il encore possible? Alors, comprenons bien. Je ne fais pas la philosophie du langage. C'est très vrai que dans des langues très primitives, je ne parle pas alors ici du japonais et du chinois, qui ne sont pas des langues primitives, mais qui sont au niveau de l'expression très différents de nos langues occidentales. Tandis que dans les langues très primitives, le verbe être existe peu. C'est très vrai. J'ai demandé au Rwanda, par exemple, où il y a encore des traditions, ou au Togo, où il y a encore des traditions de langues tout à fait premières, sans l'écriture. C'est très vrai qu'au fond, on est beaucoup plus dans l'action. C'est l'homme marchant, c'est l'homme dormant, c'est l'homme travaillant. Vous voyez, on reste aux expériences, travail, amour, coopération. Donc on reste au niveau des expériences. On n'est pas encore arrivé à la trans-expérience « j'existe ». Ça ne m'inquiète pas du tout, moi. Parce que si ma philosophie était une philosophie du langage, je dirais « il n'y a pas de métaphysique ». Et c'est très vrai, même avec notre philosophie, même avec notre langage occidental. Il n'y a pas de métaphysique, et c'est très simple à comprendre. Hein. Je vous l'ai dit déjà, je le répète, quand je dis « ceci est », parce que ça, c'est aussi dans mon langage occidental, hein, au point de vue grammatical, vous comprenez « est relatif à ceci ». Et donc, je m'enferme dans les pas. Ce n'est qu'au plan de la pensée que je dis « ceci ». Ce n'est qu'au niveau de la pensée que je peux dire que le « ceci » est tout entière donné à être. Et ça, c'est la pensée qui dit ça. Ce n'est pas le langage. Dans le langage, vous ne pouvez pas. Vous pouvez mettre un accent tonique, oui, en disant « je mets l'accent « ceci » et ». Alors, très bien, comprenez bien. Alors, vous pouvez le faire, mais ça, c'est vous qui le faites. Hein. C'est une fantaisie. C'est une fantaisie poétique. N'est-ce pas, pour bien faire comprendre la chose. Mais ce n'est pas au niveau du langage, la philosophie. La philosophie ne peut se faire qu'au niveau de la pensée. Alors c'est évident que c'est très difficile aujourd'hui, parce que la dernière forme de positivisme, c'est d'identifier le langage et la pensée. et de ne pas dépasser le langage pour découvrir ce qui est à l'origine du langage. Qu'est-ce qui est à l'origine du langage? C'est la pensée. Quand je vous parle, normalement je pense. Si je ne pensais pas en vous parlant, mon langage ne serait pas un langage vivant. Et alors ça ne produirait rien dans votre imagination, dans votre esprit. Plus je pense en parlant, plus j'éveille vos intelligences. Pourquoi il y a des cours qui endorment et pourquoi il y a des cours qui réveillent, hein? On a tous fait cette expérience dans sa vie. On a des cours qui vous endorment. Un bon chloroforme, après ça, on pourrait aller dormir. Et pourquoi il y a des cours qui vous réveillent? Ça dépend de la densité de pensée du professeur. Si le professeur ne fait que répéter un disque, vous dites, après tout, hein, je vais vous donner un cours que j'ai fait il y a 20 ans. Vous avez comme ça, au seul choix, un bon professeur qui répétait toujours la même. Et puis alors, au bout de 20 minutes, il faisait « Ah, pardon, oui, je ne dis plus ça maintenant. » Alors, je vais... Il fallait 20 minutes pour que lui-même se réveille et constate qu'il ne disait plus ça. Alors, vous comprenez que les pauvres étudiants, voilà, c'était un professeur merveilleux. Il était un peu paresseux. Il était normand vaincu, comme il le disait. « Je suis un normand vaincu. » Ou alors, en tant que normand vaincu, il pouvait faire ça. Mais évidemment, la différence entre un cours où, de fait, quelqu'un pense en faisant son cours, et puis la lecture d'un livre, ou même quand on écoute une bande magnétique, c'est pas la même chose, parce que, de fait, la pensée n'est pas inscrite. Pas encore arrivé à faire ça. C'est le langage qui est inscrit, avec ses modalités, mais c'est le langage. Tandis que, donc il y a une coupure, ça, impossible autrement. Alors quand on connaît, c'est plus facile, mais quand on ne connaît pas, c'est très difficile. Et il y a quand même le fait que c'est la pensée, le niveau philosophique. Alors, il peut très bien se faire que l'instrument du langage n'est pas encore arrivé à exprimer le verbe être. C'est pas gênant. C'est pas gênant, parce que ça c'est le signe. La réalité, c'est ici. La distinction se fait dans la pensée, pas dans le langage. Le langage aide, mais le langage n'est qu'un instrument. C'est pas... Si je faisais la philosophie du langage, je serais tout à fait d'accord à dire, eh bien oui, il n'y a pas de métaphysique. Parce qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est les temps, c'est le marchand, je marche, c'est le travaillant, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est homo operans. C'est l'homme travaillant, l'homme œuvrant. Alors, ce serait très vrai, ce serait ça la seule chose qu'on regarderait, parce que c'est ça qui s'exprime. Mais comme, de fait, le langage n'est qu'un moyen, je peux très bien faire comprendre, et ça, je vous affirme que même ceux qui n'ont que ce langage-là, ils restent des hommes avec l'intelligence. C'est quelquefois une intelligence beaucoup plus métaphysique que nous, parce que plus primitive. Alors, ils comprennent qu'en effet, il y a l'exister qui est présent dans tout verbe. Le verbe être, c'est le verbe à l'état pur, tout simplement. Eh bien, si j'ai des verbes à l'état moins pur, le verbe être est quand même présent. Et c'est très vrai, le verbe être est présent. Et donc, dans toute énonciation, le verbe est présent. Ça, il n'y a pas un seul langage où le verbe n'est pas présent. Ça a l'air d'être des juxtapositions, il y a toujours le verbe, il y a toujours l'action. L'action est exprimée. Je crois qu'il n'y a pas une seule langue où l'action n'est exprimée. Et donc, vous trouverez dans tout langage le nom et le verbe. C'est suffisant. C'est suffisant de trouver ces deux axes pour que la métaphysique puisse exister. Parce que le verbe contient radicalement l'exister. Tout verbe contient radicalement l'exister. Il suffit de l'expliciter. Et je suis tout à fait d'accord que la métaphysique n'est pas au niveau de notre expérience ordinaire. Si la métaphysique était au niveau de notre expérience ordinaire, ce serait gênant. Mais la métaphysique n'est pas au niveau de notre expérience ordinaire. Elle est cette trans-expérience. Elle est ce qui dépasse notre expérience ordinaire pour réfléchir sur la source de notre pensée, notre nous, notre intelligence. Elle est faite pour l'être. C'est cette expression si forte de saint Thomas, primo cadit in intellectu ens.
Ça, il faut savoir. Hein. Primo, je le mets en grosses lettres. Hein. Primo cadit, intéressant, ça tombe dedans. Cadit, primo cadit in intellectu ens. Je fais ça en gros. Alors, c'est très très joli cette affirmation de saint Thomas. En premier lieu, ce qui tombe dans l'intelligence, c'est ens, ce qui est. L'intelligence est avide de ce qui est. Vous voyez, tant qu'on n'a pas découvert ça, notre intelligence reste un peu handicapée par nos sensations, par nos imaginations. Elle n'atteint pas vraiment ce qui est son bien. Primo cadit in intellectus ens. Ça, c'est une des phrases. Saint Thomas l'a dit 175 fois, cette phrase. Hein. Je ne vais pas compter, mais c'est un bon étudiant de la grégorienne qui a fait une thèse là-dessus et qui a récolté toutes les fois au Saint Thomas. C'est facile comme petite thèse. Hein. Il a récolté tout simplement chaque fois que Saint Thomas disait ça. Primo cadit in intellectus ens. Alors, je crois qu'en effet, c'est le slogan de saint Thomas. Hein, là, c'est le dada de saint Thomas. Hein. Primo cadit in intellectus ens. C'est du reste beau, c'est quand même quelque chose d'assez beau de dire la première chose que l'intellect. Il ne dit pas la première chose que le langage exprime. Il dit la première chose que l'intelligence reçoit. La première chose que l'intelligence reçoit. Si ça cadit, si ça tombe comme ça, il tombe dans le cul. Alors, dans les profondeurs de l'intelligence, le petit caillou tombe. Ah, l'intelligence reçoit, elle, ce qui est. C'est très, très joli, ça. C'est une phrase d'Avicenne. Hein, c'est pas Aristote. Aristote n'a pas dit ça. Mais c'est une phrase d'Avicenne que saint Thomas a repris et qu'il a gardée. Et c'est très, très beau. Ça dit magnifiquement ce que ça veut dire. Et alors, ça montre magnifiquement qu'au-delà du langage, il y a la pensée. Et la pensée est avide de l'être. Est avide de ce qui est. Oui, c'est l'ordre de l'intelligence vis-à-vis de ce qui est. L'intelligence est ordonnée naturellement vers ce qui est. Quand l'intelligence ne saisit plus ce qui est, il y a un refoulement de l'intelligence. Et le refoulement de l'intelligence, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Oui, et toutes les idéologies font ce refoulement d'intelligence. Et quand l'intelligence est dans cet état de refoulement, elle n'a plus sa nourriture. Or, si l'intelligence est en moi, ce qui est plus vital, vous voyez ce que ça peut produire. Il y a des refoulements terribles de ça. Eh bien, la métaphysique est faite pour supprimer cela et redonner à l'intelligence de l'air pur. Sortir de la caverne. Parce que dans la caverne, on est enfoui dans la sensation et l'imaginaire. Sortir de la caverne pour respirer. Et on respire quand on touche le cité. Et ça, c'est très, très important. Je crois que c'est l'hygiène fondamentale de l'intelligence. Je me souviens de ce vieux médecin de famille, quand j'avais été permettre tout jeune, quoi, j'allais voir un médecin sur lequel on s'appuie, parce qu'autrement, c'est des catastrophes. Alors, j'avais ce vieux médecin de famille merveilleux qui venait de temps en temps. Mais alors, je lui demandais qu'est-ce qu'il fallait faire quand des frères avaient un peu d'angoisse. Ça. Dit, apprenez-leur à respirer. Qu'ils ouvrent leurs fenêtres et qu'ils se mettent à respirer, mais des vrais gestes de respiration. Vous verrez qu'au bout de 10 respirations, ça ira mieux. Eh bien, je crois qu'il y a des gestes de respiration de l'intelligence. Et au bout de 10 gestes de respiration de l'intelligence, ça commence à aller mieux. Parce que ce qui nous asphyxie, c'est notre imaginaire. Ça nous asphyxie. Hein. C'est notre imaginaire. Notre imaginaire nous asphyxie. Il faut rejoindre ce qui est. D'une façon banale. Et pourquoi ceux qui ont l'angoisse aiment bien d'avoir à côté d'eux un petit animal? Un petit chien, un petit chat. Je ne peux pas faire autrement. C'est pour moi, ça m'aide d'avoir ce petit chien, ce petit chat. Dans la vie monastique, c'est pas un peu difficile parce que ça ferait qu'il y avait l'arche de Noé, n'est-ce pas? Les uns ne vivraient qu'avec un bois, les autres avec un petit singe, les autres avec un petit chat, les autres avec un petit chien. Vous voyez ce que ça ferait. Hein. Comme ils n'arrivent, eux n'ont pas la vocation monastique, ce ne serait pas commode du tout. Pas. Mais alors, on doit comprendre que c'est
de fait notre vie commune qui nous aide à ça. C'est le prochain que nous devons découvrir, l'autre. Alors ça nous aide à respirer, à découvrir l'autre. Hein, parce que ce qui est, c'est l'autre. L'attention aux autres maintient en nous de l'oxygène. Ça, c'est sûr. Ça qui est merveilleux, vous voyez, c'est là on voit comment l'évangile et la profondeur de notre vie intellectuelle se rejoignent. C'est par là, c'est l'attention au prochain, l'attention à nos frères qui nous permet ça, plus profondément à l'attention à Dieu. Mais l'attention à Dieu, c'est plus difficile, hein, quand on est dans l'imaginaire, c'est plus difficile parce qu'on ne voit pas. Les prochains, on voit. Sur le petit singe, le petit chat, le petit chien, c'est ça, son droit, on le touche. Et alors, il est présent à nous, et il nous aide. Il nous aide à découvrir autre chose. Alors, c'est proprement l'intelligence qui a ce contact avec l'être. Donc, voyez, c'est ça qu'il faut comprendre quand on vous dit, parce que ça, c'est l'objection classique, n'est-ce pas, de dire, il y a des langues occidentales, des langues orientales qui, de fait, n'ont pas le verbe être, ou des langues primitives. S'il y a le jugement d'existence, est-il encore possible? Donc, le jugement d'existence ne s'exprime plus, mais il est du côté de l'intelligence. Et donc, d'une certaine manière, vous voyez, c'est plus beau, parce que le danger de l'expression du jugement d'existence, c'est qu'on reste au jugement d'existence, à l'expression, et on ne pense plus. J'ai dialogué à Fribourg avec un professeur que j'aime beaucoup, mais qui est positiviste, endiablé. Alors, et quand je lui disais le jugement d'existence, il disait, mais le jugement d'existence, mais c'est ceci, et n'ajoute rien. Et c'est très vrai, et n'ajoute rien. La signification de ceci et ou ceci, c'est exactement la même chose. Donc, au fond, vous supprimez, et vous dites ceci. Vous voyez, c'est les fameuses choses de Kant, quand il dit « sans talent réel » ou tout simplement penser, ça a la même signification. C'est pas tout à fait la même chose dans la réalité. Si vous avez 100 thalers dans votre coffre-fort qui existe, ou vous les avez que dans votre pensée, c'est pas tout à fait la même chose. Et pour lui, c'est la même chose, parce qu'au point de vue de la signification, c'est exactement la même chose. Et ne signifie rien du tout. C'est ceci. Alors une fois qu'on en est là, vous comprenez, on ne peut plus. Oh, c'est absolument impossible, vous le dire, très bien. Allez-y, faites de la métaphysique si vous voulez, mais si vous ne rejoignez jamais le réel, vous ne faites pas de la métaphysique, vous restez dans la signification, c'est-à-dire dans vos idées. Et vous restez uniquement dans vos idées. C'est ça que j'appelle le gargarisme des idées, vous voyez. C'est le gargarisme des idées n'enlève pas la grippe. Parce que ça n'atteint pas, justement, la réalité. Derrière cette question, il y a le souci de savoir si la métaphysique est la démarche philosophique la plus universelle. Oui, c'est la démarche la plus fondamentale de l'intelligence. Parce que c'est l'appétit de notre intelligence qui est fait pour atteindre ce qui est. Quand à partir du jugement d'existence, vous posez ceci est, vous utilisez une forme conventionnelle du langage, derrière laquelle il y a une grammaire, qui me permet de dire nom et verbe, etc. Et de montrant, oui, dans votre raisonnement, et ensuite, oui. Cette formulation est-elle vraiment adéquate au réel du jugement d'existence? Non, elle n'est pas adéquate. Elle est conventionnelle. Ma philosophie n'est pas au niveau du langage. Elle est au niveau de ma pensée. Si je dis jugement d'existence sans rien penser du tout, mais vous n'avancez pas d'un pouce. Mais si en disant jugement d'existence vous recommencez à penser, oui, ceci est, qu'est-ce que je dis quand je veux dire ça? C'est que je touche une réalité, que je considère que cette réalité, elle existe. Quand je dis j'existe, alors nous allons voir, j'existe. Quand je dis ça, c'est aussi, je touche une réalité qui est au-delà de ma pensée, au-delà de ma connaissance. Je dépasse ma connaissance, je dépasse mes idées pour atteindre une réalité haute qui s'affirme à moi, qui se présente à moi. Alors, ma philosophie est au niveau de ma pensée. Ma philosophie n'est pas au niveau du langage. Et ça, c'est très, très important. Je me sers du langage pour la communiquer. Je suis bien obligé. Je me sers du langage pour la préciser. Parce que même si je faisais de la philosophie seule, je devrais l'exprimer. Ça m'aide. L'expression aide. Mais je sais que l'expression est conventionnelle. C'est pour ça que ça ne me gêne pas que dans certaines langues, le verbe être n'existe pas. C'est pas gênant. Seulement, ça demande un effort de penser un peu plus. Oui. On n'est pas encore arrivé à cette formulation. Ce n'est pas d'importance. Parce qu'on peut penser beaucoup, on pense toujours au-delà de la formulation. Mais ma pensée n'est jamais adéquate à ma formulation. Jamais adéquate. Ma formulation est conventionnelle, je suis tout à fait d'accord. Elle est conventionnelle. Elle m'aide beaucoup. Elle m'aide beaucoup parce qu'elle précise. Mais c'est ma pensée auquel je reviens toujours. Et donc c'est l'intelligence, dans son exercice d'intelligence, qui a un appétit naturel vers l'être. Alors vous allez dire, ça, vous dites ça a priori. Ça, a priori, l'intelligence est faite pour l'être. Non, je ne dis pas ça a priori. Je dis ça à partir de l'expérience. À partir de l'expérience que j'ai, du travail, de l'amour d'amitié, de la coopération, toutes les grandes expériences. Et en réfléchissant sur ces expériences, je vois que toutes ces expériences ont quelque chose de commun. Ce sont mes expériences à moi. Ce sont les expériences par lesquelles je suis en contact avec le réel. Je suis en contact avec la matière. Je suis en contact avec la personne de l'autre. Je suis en contact avec l'autre. Et je peux alors, au-delà de ces diverses expériences, saisir qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces expériences. C'est l'exister. Et donc, à travers ces expériences, mon intelligence touche autre chose que l'action de travailler, que l'action d'aimer. Elle touche l'autre qui existe, qui s'impose à moi. Et alors, ce n'est qu'à partir de cette expérience et réfléchissant sur cette expérience que je découvre, en effet, il y a un appétit naturel de l'intelligence. Vous voyez, l'appétit naturel de l'intelligence, je le pose après l'expérience, je ne le pose pas avant.